Bonjour mes frères et sœurs. Oui, Dieu nous voit quand on prie. Dieu nous voit quand on ne prie pas aussi. Et il étend ses regards ce matin pendant la prière. Justement, je pensais à ce verset que Dieu étend ses regards. Dieu regarde sur toute la terre pour voir celui dont le cœur est tout entier à lui. Alors ce matin, je voudrais partager un sujet qui me préoccupe parce que beaucoup de chrétiens ne sont que des chrétiens que de nom. À quoi on reconnaît un véritable chrétien? Qu'est-ce que vous écririez, vous, en réponse à cette question? À quoi reconnaît-on un véritable chrétien? À sa dénomination? Tel chrétien de telle dénomination est supérieur à celui-ci qui n'a pas la même doctrine, ou tout à fait la même doctrine? À quoi reconnaît-on un chrétien? Aux années de marche qu'il a avec Dieu? Celui-là, il a 20 ans, donc il est meilleur que celui qui a que 10 ans de conversion? Ça devrait. Par contre, ça devrait. Un chrétien qui a 30 ans de conversion devrait avoir une maturité. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Non. Est-ce qu'un chrétien se reconnaît à la quantité de versets bibliques qu'il connaît par cœur? Est-ce qu'un chrétien se reconnaît au fait qu'il peut chanter tous les cantiques, les yeux fermés? Quel chrétien? Il connaît tous ses cantiques par cœur. Un chrétien, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui prie à haute voix dans l'église le dimanche matin. Oui? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que ceux qui prient à haute voix ne sont pas meilleurs que ceux qui ne prient pas à haute voix? Je l'ai entendu, ça. Mais sûr que non. Vous voyez, un véritable chrétien, écoutez bien mes frères et sœurs, parce que beaucoup de frères et de sœurs sont maintenus dans l'échec parce qu'ils ne vont pas comprendre ce que je vais dire. Un chrétien, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui fait confiance. Il prie, oui, il prie. Il loue, oui. Il chante, il va à l'église, il connaît des versets par cœur, etc. Mais ce qui détermine un vrai chrétien, ce n'est pas qu'il prie, c'est qu'il fait confiance. Il fait confiance quand il prie et il fait autant confiance quand il ne prie pas. Il vit dans cette confiance. Un véritable chrétien, bien sûr, il connaît Dieu. Jésus l'a dit, mes brebis, elles connaissent ma voix. Pas des sermons et des textes en pagaille. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Elles savent ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. C'est comme ça. Regardez ce texte qui le montre bien, parce que j'ai pris ce texte dans le Deutéronome pour vous expliquer qu'en fin de compte, le Seigneur nous bénit, mais le Seigneur nous éprouve. Est-ce que vous l'avez vérifié ça? Nous souvent on voit le diable partout, ce qui est un déséquilibre, un vrai déséquilibre. Mais regardez dans le Deutéronome en ce qui concerne justement les faux prophètes. Et vous savez que notre monde religieux, le royaume de Dieu, toutes les églises sont concernées par les prophéties, par des enseignements. Et Dieu peut le permettre. Regardez Deutéronome chapitre 13. Je crois que les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu avec les yeux de leur cœur. On a partagé mardi ce verset « Ouvre tes yeux ». Et tu seras rassasié de pain. Quelqu'un qui ouvre ses yeux, pas les yeux physiques, mais ses yeux spirituels, il sera nourri. Regardez dans Deutéronome au chapitre 13, verset 1er. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Regardez bien la suite, ce n'est pas le diable. Car, comment vous avez dans votre Bible? Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous voyez? Dieu nous met à l'épreuve. Dans tous les domaines, même dans le domaine du discernement des esprits, dans le domaine de la saine doctrine. C'est pour cela que c'est à chacun de nous. Et Dieu regarde. Dieu regarde. Ce matin, Dieu regarde, il va voir comment vous allez répondre tout à l'heure à cette exhortation. Comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez dire, mais c'est une grâce. Vous savez, quand Jésus a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Vous rappelez? Apprenez de moi et vous trouverez le repos. Tiens, est-ce que ce matin, je veux connaître davantage ce repos? Est-ce que je veux entrer dans ce repos? Est-ce que ce n'est pas utile dans ce monde un peu compliqué d'être dans ce véritable repos? Alors je voudrais lire notre texte. On va lire plusieurs. Je vous demande d'ailleurs, je pense que c'est bien que vous les notiez à partir de maintenant. Dans Matthieu chapitre 6, vous connaissez l'enseignement sur le Notre Père. Qui, quand il était petit, a appris à réciter le Notre Père par cœur? Qui l'a appris? Levez la main, oui, c'est bien de savoir. Moi, je me rappelle, j'en garde un souvenir. Avec ma sœur jumelle, on dormait dans la même chambre. Et il fallait réciter le Notre Père. Ma sœur était très instruite et retenait. Et moi, jamais j'ai appris. Et je me prenais des baffes. Je commençais, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom... Je ne me rappelais plus. Pif, ma mère. Et quand chaque fois que je lis un texte de Notre Père, je pense à ma mère qui est au ciel maintenant. Matthieu chapitre 6, verset 13. Vous connaissez ce verset. Dans ce verset, il y a trois pensées. Il y a une pensée par rapport aux tentations, une pensée par rapport au diable et une pensée par rapport à Dieu. C'est Jésus qui parle. Ne nous induis pas en tentation, ça se réfère à l'œuvre de Satan. Mais délivre-nous du malin, ça se réfère à Satan lui-même. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est Jésus qui parle. Jésus dit que c'est à Dieu qu'appartient le règne. Il règne au siècle des siècles. On pourrait prendre d'autres textes. Je pense au psaume 20, c'est lequel où il dit l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Psaume 27. 27, je ne me rappelle plus. On peut le lire quand même. Ça vaut quand même la peine. 29. On va le lire en entier. Tiens. C'est quand même impressionnant de voir tous les textes dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, qui nous rappellent que Dieu règne. Psaume 29. Psaume de David, le titre, moi c'est la toute-puissance de Dieu. Lisons-le. Comprenons l'enseignement. Dieu veut que nous comprenions bien qu'il règne. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban, il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous écrient gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Dieu règne. Il règne au siècle des siècles. Et Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Il règne, mes frères et sœurs. Je me demande si les chrétiens le croient. Vous allez me dire, mais si, on le croit, c'est écrit. Vous avez remarqué dans la parole de Dieu qu'il nous est demandé beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour notre bien. Par exemple, il nous est demandé de rendre grâce. De rendre grâce. Quand est-ce qu'il nous est demandé de rendre grâce? Pourquoi nous est-il demandé de rendre grâce? Pour? Est-ce que c'est écrit? Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Rendez continuellement grâce. Lorsque Paul parle d'être rempli du Saint-Esprit, il indique justement une des faveurs qui nous y amèneront. Il dit « Rendez grâce en toutes choses ». Rendez grâce. Quand il dit dans Pierre, dans Timothée, il dit « Mais c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement ». Rendez grâce en toutes choses. Regardez ce verset. Ce verset, je le cite souvent, mais je sais qu'il me faut qu'on le relise ce matin. Dans Jacques, au chapitre 1er. Mes frères et sœurs, vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien, non pas parce qu'ils ne veulent pas être bien. Ils ne sont pas bien parce qu'ils ne font pas, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Quand l'apôtre Jacques dit ceci, relisons-le s'il vous plaît. Jacques, chapitre 2, c'est peut-être le texte que j'ai le plus utilisé. Chapitre 1er, pardon, verset 2. Qu'est-ce que ça veut dire, rendre continuellement grâce? Est-ce que ça veut dire merci, 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 24 heures sur 24, merci, merci, merci? Il faut dire merci, il l'a dit, il l'a dit. Il l'a dit, il l'a exhorté, il faut dire merci. C'est pas ça, frère et soeur. C'est un état d'esprit. Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, qu'est-ce que ce texte nous dit? Il nous dit la même chose. Il nous dit de considérer toutes les épreuves que l'on peut traverser comme une occasion de faire des progrès avec Dieu. Dieu aime quand on lui rend grâce. Vous l'avez fait à haute voix, par les chants, certainement dans votre cœur. Est-ce que dans ce matin, qu'est-ce que Dieu a entendu dans ce lieu? Donne-moi. Ça a été bien ce matin, je n'ai pas entendu. Mais c'est quand même malheureux. Alors ce que je vais dire, ce n'est pas forcément juste, mais c'est révélateur. Dans la maison du Seigneur, le dimanche matin, je l'ai déjà dit, mais il faut le redire. Il faudrait qu'on entende que des merci. Oui ou non? Que des merci. Des cultes d'adoration. D'adoration, c'est en plus, c'est merci pour ce que Dieu est. La louange, c'est merci pour ce que Dieu fait. Et c'est vrai. Alors moi, c'est pour ça que je suis pas habilité pour. Mais quand même, moi j'étais dans des cultes où les cultes d'adoration, c'était des réunions de prière. Seigneur, et béni Tati, et béni Mémé qui a la sciatique, etc. Bon. Moi je ne suis pas contre de prier pour Mémé qui a un problème au rein. Mais mes frères et sœurs, on a toute la semaine pour prier. Et quand Dieu demande de rendre grâce continuellement, c'est ça, c'est un état d'esprit. Quand Dieu dit au travers de l'apôtre Jacques, mes frères, mais regardez, nous on regarde, on va le voir à la fin, nous on regarde ce qui nous barre le chemin. On ne regarde pas ce que Dieu veut faire, on regarde ce qui nous bloque. Et c'est le problème de l'Église. Et c'est bien sûr, le diable va s'acharner à ça, à ce qu'on soit bloqué par les taupinières là devant la route. Quand Dieu dit qu'il faut dire merci, il faut dire merci. Il faut le faire de bon cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, c'était à bon escient que j'ai dit, est-ce que celui qui prie à haute voix est supérieur à celui qui ne prie pas? Non, mais que vous priez à haute voix ou que vous priez intérieurement, moi ça ne me gêne pas. Mais est-ce que Dieu entend merci? Pas maintenant, mais tout à l'heure en sortant. Demain matin, quand le réveil va sonner. Demain matin, demi-heure après, quand le patron va exprimer son caractère, est-ce que je suis capable de dire, Seigneur, merci, mes frères et sœurs. Dieu sait que nous avons besoin de développer un certain état d'esprit pour être fidèles jusqu'à la fin. Et quand Dieu dit, retenez mes instructions, vous connaissez ce texte, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Quand Dieu demande de la reconnaissance. Est-ce que c'est écrit dans une épître? Soyez reconnaissants. Est-ce que c'est écrit? C'est écrit, vous savez où? Dans les Colossiens, au chapitre 3, au verset... Chapitre 3. Soyez reconnaissants. Cela veut dire que dans mon cœur, je dois exprimer de la gratitude envers Dieu, mais aussi envers mes frères et sœurs, et envers ce que les autres font. Est-ce que vous remerciez votre épouse pour les repas qu'elle fait? Ou est-ce que vous dites, non, moi je remercie que Dieu? Mais enfin, bon, Dieu a utilisé quand même aussi les mains de votre femme. Oui ou non? Et ça se développe, ça. Cet état d'esprit. Seigneur, merci. Je veux te rendre grâce. Je veux qu'il y ait des merci et pas que des dons. Vous savez que vous connaissez ce proverbe dans le proverbe 30, je crois. La sangsue a deux filles. Vous connaissez les prénoms? Donne et la deuxième, elle s'appelle Donne. Dieu dénonce les chrétiens sangsues. Ces chrétiens qui sont tout le temps de Seigneur, donne. Bien sûr, il faut demander, mais il faut demander. Demander. Jésus n'arrête pas de, justement, de solliciter. Il dit, mais demandez, cherchez, frappez. Et vous connaissez la suite. Et moi, je vous dis, vous recevrez, dit le Seigneur. Mais mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait plus de merci, plus de reconnaissance que de donne. Et fais ceci, et fais cela. Dieu veut nous enseigner cet état d'esprit. D'être rempli de reconnaissance. Mes frères et sœurs, si on a pu venir ce matin dans l'église, c'est qu'on est fait de la grâce de Dieu. Vous avez pu vous payer de l'essence pour venir, mais c'est un effet de la grâce de Dieu. Vous avez pu marcher du métro jusqu'à ici, mais si vous avez des doutes, cet après-midi, vous prenez une, après la réunion d'évangélisation, vous allez à Rangueil, en traumatologie, au service de traumatologie. Et vous passez dans les chambres. Et vous allez voir si ce n'est pas une grâce d'avoir deux jambes. Quand je marche, je pense toujours à ce verset dans le psaume 56, je crois quand il est dit, tu comptes les pas de ma vie errante. C'est une grâce de marcher. Vous le croyez? C'est une grâce. Vous allez me dire, non mais qu'est-ce que tu nous... Moi je n'ai pas besoin de ça ce matin. Moi j'ai besoin d'une vraie exhortation. Alors écoutez bien, on va commencer quand même par ça. L'exhortation arrive. Mes frères et sœurs, si Dieu, dans sa sagesse, nous dit « rendez continuellement grâce, apprenez à dire merci », on le fait aux enfants. Vous avez vu comment c'est désagréable un enfant qui ne dit pas merci? Vous n'avez jamais été irrité par un enfant qui est impoli? Combien de fois vous avez dit à haute voix ou pensé « il y a des baffes qui se perdent ». Vous ne l'avez jamais pensé ça? En voyant des enfants qui sont mal impolis? Mais tous ont la pensée. Mais mes frères et sœurs, devant Dieu, est-ce que nous sommes suffisamment reconnaissants? Est-ce que nous comprenons cette affaire? Mes frères, mes sœurs, regardons comme un sujet de joie ces épreuves que nous traversons. Mes frères, il faut réaliser que tout est grâce. Tout est grâce. On l'a entendu, il y a une prophétie qui l'a rappelée ce matin. Vous avez écouté la prophétie? Si nous voulons être de véritables chrétiens, il faut qu'il y ait beaucoup de reconnaissance. Vous entendez, mes frères et sœurs? Vous savez, je ne sais pas ce que Dieu pense. Moi, je suis, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas... D'ailleurs, ça ne me regarde pas. Mais franchement, si Seigneur, merci, merci, merci Seigneur. Pour, vous rendez compte, je joue un peu la comédie, quoi. Seigneur, merci pour le salut de mon âme. Merci pour l'épouse que tu m'as donnée. Merci pour la maison que tu m'as donnée. Et que quand j'arrive, je suis en train de me plaindre. Parce que ma femme aussi, vous croyez que ça plaît à Dieu ça? Eh non. Un chrétien qui n'est pas satisfait. Vous écoutez-moi bien. Un chrétien qui n'est pas satisfait, qui ne vit pas dans cette reconnaissance, surtout quand même dans notre situation. Quand même, je veux dire, on n'est pas à Mossoul. Vous êtes d'accord? Ou à Raqqa? Je lisais sur Google Actualité hier que ceux qui ont été dans des camps de réfugiés à côté de Mossoul, des camps de réfugiés, je ne sais pas si vous savez, ils disent que c'est le bonheur. C'était écrit comme ça. C'est le bonheur, les camps de réfugiés, après ce qu'on vient de vivre pendant 2 ans à Mossoul. Je ne sais pas si c'est des chrétiens, des croyants, je ne sais rien. Mais mes frères et sœurs, un chrétien qui ne rend pas grâce... Surtout que ce n'est pas compliqué, il y a des choses compliquées. L'autre jour, j'ai fait une étude sur la consécration. Franchement, c'est un petit peu plus cossu, je l'admets. Et on peut ne pas comprendre. Mais il y a des choses que l'on devrait absolument comprendre, même quand on n'est pas converti. Si vous n'êtes pas baptisé, si vous n'êtes pas encore converti, vous le comprenez très bien. Et un chrétien qui n'est pas satisfait, c'est un chrétien qui n'a rien compris, qui n'a pas compris que ce que Dieu lui a donné. Moi, je bénis Dieu d'être en France. Oui ou non? Oui, c'est une grâce. Quelqu'un qui n'est pas satisfait, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Et c'est ça un problème, qui ne voit pas les bienfaits de Dieu. Ce matin, je lisais le psaume 103, mais ça regorge. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te guérit et c'est lui qui te rassasie et c'est lui qui te pardonne, car il ne nous traite pas selon nos péchés. Personne ne serait là. Si Dieu nous avait traités selon nos péchés, il n'y en a pas un qui serait là ce matin. J'allais dire, je serais tout seul. Non, je ne serais même pas là. Personne ne serait là. Vous savez que c'est vrai. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et si on prenait rien que le temps de méditer ce seul verset, on dirait, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Donc un chrétien qui ne remercie pas, c'est un chrétien qui n'a pas compris tout ce que Dieu lui a donné. Alors il faut comprendre ces choses. Pourquoi Dieu demande de considérer ces épreuves? Tiens, mais ces épreuves que je traverse là, dans mon travail, ces épreuves que je travaille dans ma famille, que je traverse dans ma famille, là, dans mon couple, en ce moment. Est-ce que ça peut arriver de traverser une épreuve dans le couple? Eh bien oui. Est-ce que ça peut arriver de traverser un problème avec les enfants? Oui. Et dans l'église? Mais oui. Soyons honnêtes. Seigneur, tu vois ces épreuves que je traverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Considéré comme un sujet de joie. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut que je saute de joie? J'ai appris que j'avais le cancer. Ah, merci Seigneur, c'est merveilleux, je saute de joie. C'est ça que ça veut dire? Ben non! Mes frères et sœurs, il faut être sérieux. Il y a des chrétiens qui ont présenté les choses de manière tellement légère. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Vous le croyez ça? Et c'est ce qu'on va voir. On va voir plusieurs raisons. Pardon si l'introduction est un peu longue. Mais on va voir trois raisons qui nous montre pourquoi on peut se réjouir et pourquoi on peut dire merci. Premièrement, dans Lamentation de Jérémie. C'était un peu long mon introduction, je l'avoue. C'est pas grave. Regardez bien, frères et sœurs, ces textes, je voudrais que vous les appreniez, que vous les méditiez. N'oubliez pas qu'ils ont été écrits pour notre instruction, pour que l'on apprenne à ce que cette grâce soit là, que je vive dans la grâce de Dieu. Vous croyez que ça, c'est terrible, un chrétien qui chante depuis 20 ans, je vis dans la grâce, merci pour ta grâce, oui, le bonheur et la grâce, et qui n'arrive pas à y rentrer, parce qu'il n'a pas appris à dire merci. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Ce sont des questions, vous savez qu'il y a des questions en pagaille dans la Bible. Notez-les, mes frères et sœurs, notez-les. Qui dira? Tiens, qu'est-ce que vous dites, vous? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Regardez la troisième question, qui celle-là n'est pas des moindres. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Et il est ajouté que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ne vous plaignez pas du péché des autres, des vôtres. C'est comme quand il est dit, considérez comme un sujet de joie vos épreuves, pas les épreuves des autres. Parce que des fois, on a vite fait de s'égarer et de penser que les autres, ah, mais s'ils traversent une épreuve, c'est peut-être qu'ils l'ont cherchée. Ce matin, je pensais, dans la prière, quand Gabriel, l'ange, mais regardez bien quand même, quand Gabriel parle à la Vierge Marie, il lui dit, tu sais, ta parente Élisabeth, celle qu'on appelle la stérile, elle est dans son sixième mois. Au ciel, ils sont au courant de la façon dont on parle des gens. On l'appelait la stérile. C'est-à-dire que quand on voyait Élisabeth passer, les gens disaient, t'as vu qui c'est qui passe? La stérile. À l'époque, aujourd'hui encore au sens, mais à l'époque, c'était quoi être stérile? C'était une malédiction. Et pourtant, cette femme, la Bible dit qu'avec son mari, ils étaient justes et droits. Et ils étaient intègres. On ne va pas prendre tous ces textes, mais vous savez que c'est vrai. Et l'ange Gabriel dit, on l'appelle la stérile. Vous rendez compte, cette opprobre qu'on met sur les gens. Alors qu'on se plaigne de nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset 37 et ce verset 38? Qu'est-ce qui dira? Donc il y a une question, qu'est-ce que vous dites, vous, en fait? Qui dira? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous croyez que Dieu règne? Parce que c'est ce que nous dit ce texte. Si les chrétiens ne le croient pas, je me demande qui le croira. Ce texte, il nous dit quoi? Mais que Dieu ne subit pas les choses, il n'est pas là en train de perdre, comment dirais-je, les rênes, en disant, mais qu'est-ce qui se passe en Syrie? Qu'est-ce qui se passe? Comment je devrais faire pour rattraper ce qui se passe en Syrie? Comment je vais rattraper les Gazaouis? Comment je vais... Vous croyez que Dieu occupe son temps à essayer de savoir comment il va régler tel ou tel problème? Est-ce qu'il passe son temps à dire, mais comment je vais faire? Comment je vais corriger ces effets de Satan sur telle ou telle ville? Mes frères et sœurs, écoutez bien, Dieu règne sur toute chose au siècle des siècles. Il règne. Il n'est pas dépassé, il sait très bien ce qui se passe, il l'autorise, il le permet. Et nous, bien sûr, nous ne sommes pas capables, même quand on connaît bien, je pense qu'on n'est pas capable de comprendre tout ce à quoi cela va contribuer. Moi, je vais vous dire ce que ça va contribuer, à une phrase. Ça va contribuer à la guerre de Gog et de Magog. D'Ézéchiel 37, et 38 et 39, vous verrez. Et il vaut mieux être prêt. Parce que pour moi, et ça m'étonnerait franchement que j'exagère et que je me trompe. Mais comme il est parlé de cette grande colère que l'Église ne traversera pas, la guerre de Magog aura lieu après l'enlèvement. J'en suis convaincu. La première, c'est le cas dans Ézéchiel. Ce texte nous dit que Dieu règne. Regardez le verset 35 et 36. On ne l'a pas lu, je l'ai fait exprès. Regardez bien. Pourquoi il faut se réjouir en fait? Pourquoi il faut dire merci? Eh bien, regardez, l'explication, elle est là. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on a fait tort à autrui dans sa cause, question, le Seigneur ne le voit-il pas? Vous entendez, mes frères et sœurs? Dieu le voit. Si on vous a fait du tort au travail, si votre mari, si vos enfants, si votre patron, si des voisins vous ont fait du tort, mais vous croyez que Dieu ne l'a pas vu? Est-ce que vous croyez que Dieu voit tout? S'il s'appelle le Tout-Puissant, les gens ne le croient pas. Les gens ne le croient pas. S'il le croyait, je peux vous dire qu'il vivrait ce que je suis en train de prêcher. Chacun doit se plaindre de ses péchés. Seigneur, montre-moi-les. Montre-moi quels sont mes péchés. Montre-moi-les. Vous croyez que Dieu va jouer à cache-cache? Croyez-moi, il va vous le montrer. Non, Dieu n'est pas insensible dans nos épreuves. L'autre jour, j'avais pris ce verset du psaume quand il est dit, quand David dit, mais toi, Seigneur, tu sais le sentier où je suis. Dieu, on ne sait même pas des fois où on campe. Mais Dieu, il le sait, lui, on est. Le Seigneur ne le voit-il pas? Quand Jésus dit, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il le dit trois fois. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. À ceux qui sont persécutés, dans Luc 21, il dit, il ne se perdra pas un seul de vos cheveux. C'était quoi? C'était une plaisanterie? Ou c'est la vérité? C'est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui m'arrive, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Vous entendez? Tu vois ce qui m'arrive, Seigneur? Mais toi, tu le sais. Qui dira? Qui dira? Donc, moi, je peux franchement nous poser la question, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ce que l'on vient de lire? La deuxième raison, Dieu sait toujours, toujours, pourquoi il fait quelque chose. Nous, on ne sait pas. Mais il n'est pas obligé de nous le dire. Dieu peut nous dire certaines choses, il nous dit certaines choses, mais il n'est pas obligé de tout nous dire. Vous vous rappelez Abraham? Abraham qui montait au mont Morija avec son fils qui portait le bois. Vous vous rappelez cette histoire? C'est quand même quelque chose. Et à un moment donné, le fils va dire, papa, écoutez bien, papa, il y a le bois et il y a le feu pour l'Holocauste, mais où est le sacrifice? C'est écrit comme ça? Oui, c'est pas écrit papa, c'est écrit père. J'imagine, c'est pas écrit, hein? J'imagine que quand même Abraham a dû avaler sa salive et répondre à son fils, mon fils, Dieu se pourvoira. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dieu n'a pas voulu que Isaac sache ce qui allait lui arriver, ce qui aurait dû lui arriver, ce qui aurait pu lui arriver. Dieu pourvoira. Et Joseph reçoit deux songes. Il en parle à ses frères qui ont très 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 bien réagi. Est-ce que Dieu aurait pu donner un troisième songe à Joseph? Est-ce que Dieu savait ce qui allait arriver à Joseph? Est-ce que Dieu aurait pu dire à Joseph, écoute Joseph, tes frères, ils vont te faire un sale coup. Est-ce que Dieu aurait pu lui donner un troisième songe? Il ne l'a pas fait. Ça n'aurait pas été une vraie épreuve s'il avait su. Mais la deuxième chose par rapport à cette affaire de grande grâce, de considérer, parce qu'il faut il faut y arriver. Moi, je vous assure, je suis peiné de voir la quantité de chrétiens qui rendent de mauvais témoignages. Et quand on partage ces choses, il faut les comprendre. Oui, Dieu pourvoira. Vous le croyez que Dieu pourvoira si vous obéissez? Si nous obéissons, bien entendu. Dieu aime que nous ayons cette attitude. Il aime, c'est quelque chose qui lui plaît. Je citais ce verset tout à l'heure, Dieu regarde sur toute la terre pour soutenir le cœur de ceux qui sont tout entiers à lui. C'est ça être tout entier. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je ne comprends pas. Plusieurs l'ont dit ce matin, lorsque notre frère nous a entraînés dans la louange, il a dit, voilà, je ne sais pas, c'était le premier chant d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, on l'a chanté. Plusieurs l'ont dit dans la louange individuelle, Seigneur, je ne sais pas, moi non plus, mais tu t'es présent, on ne sait pas. Vous vous rappelez quand Jésus a dit à Pierre, pourtant Pierre, ce n'était pas le dernier, Pierre, ça a été un des plus grands apôtres, et puis Jésus lui a dit, écoute, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Est-ce que le Seigneur ne pourrait pas nous le dire à nous? Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Il y a plein de choses qu'on ne comprendra ou qu'on ne réalisera qu'une fois qu'on sera dans le ciel. C'est écrit, on connaîtra comme on a été connu. Mais est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce que le Dieu que vous avez accepté comme sauveur et Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ, est-ce qu'il est digne de confiance? Et voilà. Dieu aime cette attitude, et c'est pour ça qu'elle n'est pas forcément exprimée à haute voix. Tant mieux, il faut le faire, c'est biblique, il nous est demandé de louer le Seigneur dans les assemblées, etc. Mais je veux dire, mon état d'esprit, mon vrai état d'esprit, c'est comme j'avais lu une fois sur un journal chrétien, c'était une petite histoire, vous savez, et c'est un pasteur qui rentre chez lui avec sa femme. Et sa femme lui dit quand il arrive à la maison, « Chérie, tu peux arrêter de sourire, on est arrivé à la maison. » Sans commentaire. Mes frères et sœurs, nous devons être vrais. Et si le Seigneur dit « Rendez grâce en toutes choses », Seigneur, je te rends grâce, je te fais confiance. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Moi, ça m'est arrivé d'amener les enfants chez le dentiste. « Papa, est-ce que je vais avoir mal ?» Je ne sais rien. Je savais. Mais est-ce qu'on a besoin de tout savoir? Pourquoi, Seigneur, j'ai... Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi cette mauvaise nouvelle? C'est ça. L'ennemi, il attend qu'une chose, lui, c'est qu'on se plaigne. Vous avez vu ces deux versets ensemble, là? Garde-nous du malin. Délivre-nous du malin. Le malin, il aime quand on se plaint. Il se frotte les mains quand on murmure. Regardez dans la Bible tout l'enseignement sur le murmure. C'est presque trop. Mais c'est qu'on en a besoin. Quand je dis c'est presque trop, vous avez compris. Mais ça prouve que le danger dans lequel les chrétiens se trouvent lorsqu'ils murmurent, ils n'arrivent pas à entrer, ils ont perdu leur vie, ils ont perdu leur temps, pas leur salut, ils ont perdu leur vie. Combien de chrétiens ont perdu, pour ainsi dire, des années de leur vie? Ils arrivent à tel âge, ils disent, mais je suis passé à côté. Heureusement que Dieu restaure et que Dieu guérit et que Dieu te console, etc. Mais mes frères et sœurs, il faut comprendre que Dieu règne. Le deuxième verset que je voulais utiliser pour expliquer ce point, c'est dans Ésaïe 37. Vous savez, ce sont des versets, moi j'ai dû m'y arrêter, parce que j'ai compris qu'il fallait que je m'y arrête, bien sûr pour vous, mais pour moi d'abord. Regardez ce qu'il dit, Ésaïe 37, 26. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, c'est deux questions encore. Une, enfin, il y en a deux, mais elles sont contenues dans une. Ésaïe 37, verset 26. Regardez bien, c'est Dieu qui parle. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Vous lirez le contexte, hein? C'est pas ça qui nous intéresse. C'est le notre contexte qui nous intéresse. Et que je les ai résolues dès les temps anciens. Vous avez vu? Je le relis. N'as-tu pas appris? Il faut l'apprendre. Hein? C'est pour ça qu'on est là. Vous voyez, ça s'apprend. Donc il n'y a pas de reproche à faire, mais enfin quand même, si vous avez quelques années de conversion, vous devriez l'avoir appris. Oui ou non? Combien de temps il faut pour apprendre ce verset au fait? Quand on se convertit, je me convertis aujourd'hui, novembre 2016, dans combien de temps normalement je devrais avoir lu Ésaïe? Allez-moi. 20 ans? Au bout de combien de temps je peux lire Ésaïe? De la première année? Oui. Bon, après, je n'ai peut-être pas compris, mais la deuxième fois, la deuxième lecture. Voyez, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses, les choses, de loin, que je les ai résolues dès les temps anciens. Voyez, Dieu ne les subit pas, toutes ces choses. Il les commande. Ésaïe 22, c'est un reproche. En plus, c'est... Je me souviens, j'avais fait une réunion à Paris, il y a 10 ans de ça. Et il y avait eu toute une journée où les gens parlaient de joie, de gaieté. Il faut être de la joie dans le royaume, il faut de la joie, il faut de la gaieté. Et moi, Dieu m'avait mis à cœur ce verset, on va lire, Ésaïe 22. La deuxième partie du verset 11. Mais, regardez, toujours les choses, par rapport aux choses, vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Regardez bien, on le relit. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac, c'est-à-dire à se repentir pour nous. Et voici de la gaieté et de la joie. Voilà, les gens, ils veulent de la joie, alors que dites, mais non, je vous appelle à réfléchir, je vous appelle à vous remettre en question. Ne regardez pas les choses. Regardez celui qui domine sur toutes choses. C'est ça qu'il dit, ce verset. Vous ne regardez pas celui qui a voulu ces choses. Nous, on est paralysés par ces choses. Ça me gêne, moi, que dans mon foyer, il y ait ça, que mes enfants soient inconvertis, ça mérite. Que j'ai perdu mon travail, je l'accepte pas. Mais Dieu va t'en donner une autre. Bon, je l'ai entendu, ça. Mais tu as perdu ton travail. Alors écoutez bien, je vais le dire en entier. Tu as perdu ton travail. Mais t'inquiète pas. Tu gagnais combien? Ben, je gagnais 2000 euros. Ben, tu vas gagner 2005. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Allez, bon courage. C'est ça que ça veut dire? Peut-être que l'infirmière qui gagnait 2000 euros, peut-être qu'elle va recevoir un appel à la mission. Elle ne va pas gagner 2000 euros, elle va gagner le SMIC. Elle va perdre tous ses amis, à part les moustiques qui vont là. Et l'humidité, sa copine. Est-ce que ça peut concourir au bien? Vous voyez, alors est-ce que quelqu'un peut trouver un meilleur emploi aussi? Bien sûr. Mais est-ce que quelqu'un peut trouver, avoir une direction de Dieu qui va peut-être apparemment appauvrir? Vous croyez qu'elle est appauvrie? La fille qui s'en va missionnaire en Afrique soigner des malades dans un dispensaire chrétien? Vous croyez qu'elle a perdu? On en reparlera au grand jour. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les choses qui me barrent le chemin, qui m'énervent. Je regarde le Dieu qui contrôle toutes choses. J'ai failli demander à Michael qu'il nous fasse chanter cette prière. Règne en moi, Seigneur, règne. Écoutez, obéissons et la prière sera exaucée. Ce ne sera même plus la peine de chanter le cantique. Quand on obéit, Dieu règne. C'est vrai que ton règne vienne, Seigneur. Est-ce qu'il va venir le règne de Dieu? Il va venir, croyez pas, croyez bien, et ça va durer longtemps en plus. Mais est-ce que Dieu peut aujourd'hui régner dans ma vie? Parce qu'après tout, le règne pendant le millénium. Bon, est-ce que Jésus va régner pendant le millénium? Là, 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 il y aura un bon président mondial. Là, vous pourrez voter. En attendant le millénium, en attendant les nouveaux cieux, la nouvelle terre, où Dieu règnera éternellement. Mais qu'est-ce qui m'empêche que Dieu règne dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que c'est écrit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie? Est-ce que c'est écrit? Oui, Romains 5, 17. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. On ne régnera que par lui. Ne vous imaginez pas que c'est par nos forces, mais en obéissant à sa parole. Oui, on ne doit pas regarder les choses, on ne doit pas regarder tous ceux qui l'ont, ça me barre le chemin. Non, je veux te rendre grâce. Et en conclusion, dans le prophète Amos, au chapitre 3, c'est après Daniel, vous savez les grands prophètes, Daniel, Osée, Joël, Amos. Amos chapitre 3, versets 6 et 7. Regardez bien cette conclusion, regardez-la bien. Amos chapitre 3, versets 6 et 7. Pareil, question. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Regardez bien maintenant. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce qu'il dit ce texte? Eh bien, il dit que Dieu peut révéler ses secrets. À qui? À qui? Parce que la question, c'est là. Elle est là, en vérité. À qui le Seigneur peut-il révéler ses secrets? Aujourd'hui. À ses enfants. À ses enfants, alors je complète, qui marchent dans la communion avec Dieu. Dieu, moi, je le crois, c'est écrit. Vous voyez, ce texte nous parle de questions sévères. Y arrive-t-il des malheurs? Oui, il y a des malheurs, vous ne croyez pas. Et il y en aura d'autres. Hein, parce que ça ne va pas faire en s'arrangeant. Hein. Croyez-moi, ça va dégénérer jusqu'à la fin de la grande tribulation. Ça, je peux vous dire qu'on va en voir. Hein, et surtout ceux qui ne sont pas prêts. Les chrétiens, ils vont être épargnés. Les chrétiens ne peuvent pas traverser la grande tribulation. Ce n'est pas possible. Les chrétiens ne peuvent pas traverser la colère de Dieu. C'est impossible. C'est enseigné sur Internet. Moi, je vous dis que c'est impossible. C'est impossible. Mais ceux qui ne sont pas prêts. La prophétie là, qui s'adressait à un chrétien, à quelqu'un qui est perdu, qui n'est pas prêt, c'est pour un chrétien. Peut-être vous avez dû penser, ah, c'est pour un pécheur qui découvre l'évangile, qui n'est pas sauvé. Moi, je vous le dis. La dernière prophétie ou l'avant-dernière, c'est pour un chrétien qui n'est pas prêt. C'est sérieux ces affaires. C'est sérieux l'Église. L'Église, c'est pas un club de joyeux, sympathiques chrétiens. Vous voyez comme il y a des associations de pétanque, la boule joyeuse. Vous voyez la super association de... Non, on est dans le royaume des cieux. On doit obéir à la parole de Dieu. Oui, Dieu peut révéler ses secrets. Alléluia. Vous n'avez pas envie de développer une plus grande communion avec Dieu? Ah, j'ai compris ces petites instructions, mais elles débloquent le reste. Si je ne rends pas grâce, si je ne rends pas continuellement grâce, si je n'ai pas cet esprit de contentement malgré tout ce qui se passe, si je ne considère pas toutes ces épreuves comme un moyen de dire, mais Seigneur, c'est vrai que dans mon foyer ou dans ma famille, il y a encore... Franchement, Seigneur, tu sais combien j'ai de la peine. Eh bien, Seigneur, je les accepte. Montre-moi, révèle-toi, montre-moi ce qui ne va pas. Dieu révèle ses secrets, ça ne veut pas dire qu'on va tout savoir. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que Dieu va tout nous expliquer. Mais je dois déjà savoir que Dieu y va agir. Vous le croyez que Dieu va agir? C'est ça la foi. C'est ça, c'est pour cela que Dieu nous demande de développer cette mentalité. Vous savez, ce matin, il y a une prophétie qui nous rappelait que Joseph était dans cet état d'esprit. Il a dit, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Il avait été informé, Dieu s'était révélé à lui, parce qu'il était meilleur. Il était meilleur que ses frères, non. Il a été très naïf d'ailleurs, et il avait certainement les mêmes d'autres défauts. Mais il avait une communion avec Dieu, et Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu l'a utilisé, il était là dans l'épreuve. La Bible dit que Dieu l'a fait prospérer, il prospérait en prison. C'est écrit ou c'est pas écrit? Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit, vous le comprenez bien. Il était là et les gens voyaient malgré l'épreuve, tout le monde voyait que Dieu était avec lui. Alléluia. Et il n'avait pas la Bible, elle n'avait pas été encore inspirée. Il avait que la crainte de Dieu dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous avez déjà vu Joseph se plaindre? Jamais. Jamais. C'est pour ça que Dieu a utilisé cet homme. Parce qu'en fin de compte, je ne vais pas en parler ce matin. Mais le but de tout ça, ce n'est pas qu'on soit dans un bon état d'esprit. Bien sûr que c'est excellent d'être dans un bon état d'esprit. C'est sûr que c'est le top au niveau spirituel quand on est dans cet état d'esprit. Mais en vérité, c'est que Dieu va pouvoir nous utiliser. Alléluia. Est-ce que c'est important pour vous que Dieu puisse vous utiliser afin que vous donniez ce témoignage? Joseph a rendu ce témoignage. Tout le monde disait, c'est en Égypte en plus, la main de Dieu est sur lui, l'Éternel est avec lui. Vous n'aimeriez pas qu'on dise ça de vous? Au fait, qu'est-ce qu'on dit de nous? Gabriel a dit à Marie, on l'appelle la stérile. Comment on vous appelle? Comment on vous appelle? Un des sept nains, on l'appelait Grincheux. Tiens, est-ce que ça irait bien à quelqu'un ce matin? Grinche. Tout le temps en train de grincher. Il y en a des grincheux dans l'assemblée? Levez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit de vous? En fin de compte, ce que les gens disent, ce n'est pas tellement important. Mais qu'est-ce que Dieu dit de vous? C'est quand même, c'est sérieux, oui ou non? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Même Gabriel, je vous dis, a dit à Marie, mais ta tante, on l'appelle comme ça. Dieu peut pas, ne nous dira pas tout, c'est pas grave, ce qu'on ne comprend pas. J'ai noté des textes, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est Jésus qui parle. Comment ne me comprenez-vous pas? Il écoute et ne comprend pas. Vous ne comprenez pas les Écritures. À un moment, il donne une parabole, il dit, mais avez-vous compris? Oui. Et la suite prouve qu'ils n'avaient pas tout à fait compris. Alors je termine vraiment. Je vous ai dit que dernièrement, j'ai beaucoup médité le livre de Job. J'ai noté qu'il y avait 290 questions dans ce livre. Dieu en pose 78. Pendant toute l'épreuve, Dieu ne dira pas un mot. C'est ça une épreuve. Une vraie épreuve, c'est que vous ne savez pas quand est-ce qu'elle terminera. Si Dieu vous dit, voilà, tu as le cancer, mais dans un an, tu es guéri. Est-ce que c'est une épreuve? Et non. Dieu lui pose 78 questions. J'ai noté. N'oubliez pas ce qu'il venait de vivre. Et Dieu lui pose des questions. J'ai noté, hier j'ai pris le temps. Sur le cheval. C'est Dieu qui parle. Hein? Sur l'autruche. La sauterelle. L'épervier, l'aigle, la cigogne, la lionne, le corbeau, les chèvres sauvages, les biches, sur les ânes sauvages, sur le buffle, sur l'hippopotame, sur le crocodile. Moi, je trouve que c'est un peu décalé. Vous savez, c'est un livre. Moi, j'aime lire ce livre. J'aime lire ce livre. Il est compliqué, c'est vrai. Mais quand on voit ses amis qui connaissaient la parole de Dieu, qui vont lui dire à un moment, mais qu'est-ce. J'y pose une question. Mais qu'est-ce que tu sais, toi? Parce que c'est très poétique, mais je vous assure que c'est incisif. Quand on le lit comme c'est écrit de manière poétique, on ne voit pas la. On ne voit pas la teneur. Si c'était écrit en français courant, je peux vous dire que ça chaufferait. Mais qu'est-ce que tu sais qu'on ne sait pas? Mais pour qui tu te prends? Et Job, écoutez bien. Et Job répond. Pourtant, c'est difficile ce qu'il va dire. Je sais que Dieu est juste. Pour ceux qui l'ignorent, il a perdu ses 10 enfants. Et tous ses moyens. Et sa santé. Et ses amis. Et Dieu presque. Apparemment. Que sais-tu qu'on ne sait pas? Et quand vous regardez, bien sûr c'est difficile. C'est vrai que là, il faut quand même que les pasteurs nous aident. Mais il dira, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Je le sais. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et que s'il m'éprouve, je ressortirai pur comme l'or. Il veut faire des progrès. Il dit pas quand je. Si Dieu m'éprouve, ne vous inquiétez pas, je ressortirai plus riche. C'est ce qui s'est passé en plus. Il avait compris ce que je vous prêche, de rendre grâce, de remercier le Seigneur. Il va lui parler sur la création des chapitres. Et c'est vrai que hier je réfléchissais, il y a un verset qui m'a sauté aux yeux, qui verse les outres des cieux. Je réfléchissais, ne vous moquez pas de moi, d'accord? S'il y en a un qui se moque de moi, qui verse les outres des cieux. Vous savez les nuages, quand ils sont noirs, ils sont chargés de pluie, d'accord? Vous avez vu comment j'ai étudié? Il y a des nuages entiers qui sont chargés de grêle. Vous êtes d'accord? Et normalement, c'est sérieux ce que je vais vous dire, l'attraction terrestre devrait les projeter sur la Terre. Oui ou non? C'est sûr. Et ils sont maintenus par la puissance de Dieu. Bien sûr qu'aujourd'hui, on va vous dire, ouais, tout ça. Mais écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui soutient tout, toutes choses. Il sait ce qu'il fait, et même s'il ne nous donne pas toutes les explications, il va nous dire qu'il va faire quelque chose. Et Job, pourtant qui est Job, qui est un homme intègre et droit, à la fin il va dire, on peut le lire. On peut le lire pour terminer. C'est quand même important parce que mes frères et sœurs, le service dans l'église va dépendre de cette assurance. Oui, c'est quoi un vrai chrétien? Eh bien, c'est quelqu'un qui a confiance. Regardez dans le livre de Job. C'est quand même, mes frères, c'est archi important. Regardez. Après qu'il y ait passé un chapitre là sur les deux mêmes chapitres sur les animaux, c'est vrai que les éperviers. Vous avez étudié sur les éperviers. Regardez l'épervier, ce qu'il est capable de faire. Un épervier peut voir un pigeon à 8 km. Nous, à 8 km, je ne sais même pas si on verrait un camion. Vous savez toutes les. Bien sûr, vous allez me dire, bon, c'est pas important. Mais bon, regarde maintenant la réponse de Job. Job chapitre 39. Verset 36. Job répondit à l'Éternel. Je vous répète que pendant plein de mois, Dieu ne lui a pas parlé. Mais là, il parle. Parce qu'à un moment donné, il intervient pour ceux qui obéissent. Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Qu'est-ce qu'il fait? Je mets la main sur ma bouche. Chapitre 42. Job a compris, ça y est. Il a compris. Job 42, n'oubliez pas pourtant, il a été considéré comme un homme juste et intègre, et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. C'est comme ça que Dieu en parle. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Voilà le but de rendre grâce. Est-ce que vous comprenez maintenant ma conclusion? Est-ce que vous comprenez toute l'introduction qui était un peu longue, c'est vrai? Ces versets où il faut apprendre que Dieu règne sur tout. Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Vous voyez, un grand dialogue entre Dieu et Job. Mais on va lire la suite. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Regardez bien la suite, mes frères et sœurs. Regardez bien les conséquences de cette attitude. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Je vous ferai remarquer qu'il a pas mal parlé. Et pourtant, il se repent quand même. Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit aux amis de Job, à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Vous voyez ? Donc, il n'avait pas besoin de se repentir. Mais il l'a fait. Vous savez, il vaut mieux le faire une fois de plus que pas assez. Regardez bien la suite. « Prenez maintenant sept taureaux, sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, voyez le service, madame, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Vous avez vu comment Dieu bénit, Dieu pardonne. Mais regardez bien le verset 10, mes frères et sœurs. La conclusion de tout ce qu'on a partagé ce matin est là. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand ? Quand Job eut prié pour ses amis. Verset 16. Job vécut après cela 140 ans. Il a souffert, c'est vrai, quelques mois, mais je pense qu'après, il a été béni. Et il vit les fils de ses, et des fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Job mourut âgé et rassasié de jours. Mes frères et sœurs, Dieu est tout-puissant. Quand Jésus dit « C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne », c'est comme ça. Dieu règne et nous devons régner avec lui. Et nous devrions dire « Seigneur, je veux obéir ». Vous allez me dire « Ouais, mais rendre grâce, monsieur, vous nous l'avez dit, ça fait 18 ans que vous êtes ici, vous avez répété ça 50 fois. » Eh bien, parce que vous n'avez pas obéi. Si vous aviez obéi, Dieu n'aurait pas mis ça à cœur. C'est sûr. On aurait peut-être été plus loin. Alors, merci Seigneur pour sa patience infinie. Oui ou non ? Bien sûr qu'on aurait pu aller plus loin. On aurait pu aller dans l'explication de l'épervier, de l'autruche, pourquoi elle met la tête dans le sable. Peut-être que ça serait intéressant, tiens. Mais peut-être recommençons par le début. Seigneur, je veux rendre grâce en toutes choses. On va remercier le Seigneur. Jérôme, s'il vous plaît, vous pouvez choisir les frères.